Il est 8h.
Il y a une pandémie sanitaire et une pandémie numérique actuellement. Il faut renforcer très rapidement les effectifs, renforcer aussi une politique pénale. Véritablement, il y a une urgence.
Urgence pour lutter contre la cybercriminalité. L'alerte de cette magistrate, piratage, détournement de fonds, attaque de systèmes informatiques d'État. Le cybercrime coûte chaque année près de 9 millions d'euros par entreprise française. C'est un début de campagne présidentielle qui s'esquisse. Ces derniers jours, Emmanuel Macron est attaqué par la droite sur le bilan de sa politique migratoire, mais des critiques qui viennent aussi de son propre camp, vous l'entendrez. Et puis, à la veille de la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City, on vous raconte l'histoire qui se cache derrière ce match, histoire de guerre d'influence entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, le philosophe et cofondateur de la revue Front Populaire, Michel Onfray. Lutte contre l'islamisme, projet civilisationnel et immigration. Une interview à l'image de l'invité, sans tabou ni langue de bois. Rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Simon Rubin.
Bonjour Simon. Selon l'adage que vous connaissez peut-être, il paraît que le crime ne paye pas. Le cybercrime, en revanche, paye et il paye bien. C'est le constat d'un rapport du Club des juristes d'Europe 1. On vous dévoile ce matin en exclusivité. La cybercriminalité va peser 6 000 milliards de dollars en 2021. Pour vous donner une idée, c'est deux fois plus que les richesses produites par la France sur une année. Alors qu'on soit bien d'accord, on parle de piratage de haut vol, genre de piratage qui permet de détraquer des centrales électriques, de paralyser des pays entiers pendant des heures. C'était arrivé à l'Estonie en 2007. Cela représente un coût colossal et Marion Dubreuil, les forces de sécurité, magistrats, entreprises, assurances, dressent le même constat alarmant.
Oui, personne n'est épargné. 90% des entreprises ont été impactées en 2019. Près de la moitié sont des PME. Le télétravail a accentué le phénomène et c'est devenu la source de 20% de la cybercriminalité. 5 $, c'est le prix moyen d'un virus informatique. Et cela rapporte très gros. Si le risque cyber poursuit sa croissance annuelle de l'ordre de 15%, il pèsera plus de 10 000 milliards de dollars d'ici 4 ans. Le numérique, c'est le nouveau terrain de chasse du crime organisé. Responsable de plus de la moitié des cyberattaques, nous rappelle Myriam Kemener, avocate générale à la Cour d'appel de Paris.
Les réseaux mafieux se mettent en contact avec des informaticiens, en particulier l'ancien bloc soviétique, où il y a des compétences en mathématiques, en informatique, mais peu d'emplois. Il y a une pandémie sanitaire et une pandémie numérique actuellement. Il faut renforcer très rapidement les effectifs, renforcer aussi une politique pénale. Véritablement, il y a une urgence.
Le Club des juristes enjoint donc le gouvernement à faire de la cybersécurité une cause nationale dès l'an prochain pour améliorer notamment l'entraide internationale et lutter contre les pays sanctuaires qui sont aujourd'hui les paradis fiscaux des cybercriminels.
Marion Dubreuil, et on rappelle ce chiffre, vous le donniez Mathieu il y a quelques instants, la cybercriminalité coûte chaque année près de 9 millions d'euros par entreprise française.
Et pour se défendre face à cette nouvelle menace numérique, il faut que tout le monde s'y mette, des particuliers jusqu'au sommet de l'État en passant par les entreprises bien sûr, c'est ce que demande Bernard Spitz, président de la commission cyberrisque au Club des juristes.
C'est bien d'avoir tous les instruments de riposte, à condition qu'ils fonctionnent bien entre eux. L'industrie, la recherche, l'université, l'armée, etc. C'est pas que le gouvernement, c'est tout le monde. C'est-à-dire, justement, un rapport comme celui-là, je pense que tout l'écosystème qui va du MEDEF aux différentes organisations, aux fédérations, et je pense notamment à l'assurance, puisque j'en étais le président, mais surtout, l'assurance, c'est le moyen de sensibiliser les entreprises. Vous savez, chez vous, les gens ont compris que c'était mieux d'abord de ne pas laisser les fenêtres ouvertes, ensuite de mettre des portes blindées, etc. Ben, c'est exactement la même chose. Et il faut savoir que ce sont beaucoup d'erreurs humaines ou de manque d'attention qui provoquent les brèches qui permettent ensuite, dans des entreprises, dans des PME ou dans des foyers, à des pirates de s'infiltrer.
Bernard Spitz, qui était l'invité du 5-7 de Théo Manval. Plus d'une femme sur 10 a fait une fausse couche dans sa vie. 23 millions de femmes dans le monde. Chiffre fort et méconnu, révélé dans un rapport pour la revue scientifique The Lancet. Un phénomène majeur, pourtant maltraité par les politiques publiques en général. C'est ce que déplore l'une des rédactrices de l'étude. On parle là d'un tabou très fort dans nos sociétés. Vous vous souvenez peut-être qu'en novembre dernier, c'est l'épouse du prince Harry, Meghan Markle, qui avait raconté avoir elle-même fait une fausse couche.
Une nouvelle arme dans la lutte contre le Covid en France, les tests antigéniques et autotests pour les jeunes.
La Haute Autorité de Santé les autorise pour les moins de 15 ans et l'organisme en recommande même un usage régulier à l'école pour briser les chaînes de contamination. Johanna Chabas.
Selon l'organisme, ces tests par prélèvement nasal offrent une rapidité de résultats, entre 15 et 30 minutes pour savoir si l'on est positif. Ils sont également moins invasifs que les tests PCR car les écouvillons vont moins loin dans le nez. Ils sont donc plus adaptés aux jeunes enfants et peuvent être utilisés de manière répétée. Autant de qualités qui font de ces tests des outils pour casser les chaînes de contamination à l'école, conclut la Haute Autorité de Santé. Elle recommande que ces tests soient réalisés au moins une fois par semaine en milieu scolaire avec différentes règles selon les âges. Les collégiens pourront le faire eux-mêmes, comme les lycéens et les étudiants. Pour les élèves en primaire, il est préférable qu'un parent ou qu'un personnel formé s'en charge. Et pour les enfants en maternelle, le test devra impérativement être réalisé par un adulte.
Et concernant les chiffres de l'épidémie en France, on est repassé au-dessus des 6000 malades en réanimation.
Et c'est dans ce contexte que le dispositif des élections régionales se précise.
Après une réunion hier autour du ministre de l'Intérieur avec des représentants des partis politiques, des groupes parlementaires, les associations d'élus, et sont prévues un certain nombre de mesures, notamment pour limiter le risque sanitaire durant le scrutin. Hélène Terzian.
Ceux qui diront à voter seront vaccinés en priorité. Le jour du scrutin, non seulement un protocole sanitaire strict sera appliqué, mais la clé, c'est donc la vaccination. Tous les membres des bureaux de vote, présidents, assesseurs, secrétaires et les fonctionnaires municipaux mobilisés recevront une attestation délivrée par le maire. Ils pourront alors se faire vacciner dans des créneaux réservés dès maintenant et ce jusqu'au 5 juin. Le soir du vote, si vous souhaitez dépouiller les bulletins, la priorité sera donnée aux personnes vaccinées ou immunisées. Sinon, il faudra disposer d'un test négatif de moins de 48 heures. Enfin, pour limiter la circulation du virus, des bureaux de vote en extérieur pourraient être autorisés. Selon nos informations, la campagne est elle aussi adaptée. Un candidat et son équipe pourront déroger au couvre-feu pour faire du porte-à-porte par exemple. En revanche, malgré la demande de certains partis, les meetings en intérieur et en extérieur seront interdits. Les plus malins retiendront que les manifestations, même statiques, restent autorisées à condition d'avoir été déclarées en préfecture.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1 à ces élections régionales 20 et 27 juin. Et puis c'est la dernière étape aujourd'hui du Brexit, ça y est, on entrevoit enfin le bout du tunnel sous la Manche après des mois de négociations qui avaient abouti, vous vous en souvenez peut-être, à un accord commercial in extremis. C'était juste avant Noël, le 24 décembre. Eh bien, le Parlement européen devrait voter et approuver cet accord aujourd'hui.
Vous restez avec nous. Après la pub, on vous parle de cet échec d'Emmanuel Macron en matière de politique migratoire. Oui, le mot échec, le mot est fort, il ne vient même pas de l'opposition, mais des proches conseillers du président. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal Simon Rubin.
Depuis quelques jours, le débat politique s'est polarisé autour d'un sujet, l'immigration et plus précisément le bilan migratoire d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs Valérie Pécresse sur notre antenne dimanche qui avait donné le ton en ciblant le laxisme du président sur la question. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, on s'intéresse à la manière dont l'entourage d'Emmanuel Macron juge sa politique en matière de migration. Louis Dragnel, vous nous expliquez ce matin qu'au sein du gouvernement, plusieurs conseillers sont eux aussi dubitatifs sur l'action du président en 4 ans.
Absolument. Le constat est cinglant. La politique migratoire d'Emmanuel Macron est un échec du quinquennat. Et ils poursuivent, nous nous étions engagés à accueillir moins de personnes en France, mais mieux. La réalité, c'est que 2019 a été une année record de titres de séjour délivrés.
Quelles raisons sont invoquées par vos interlocuteurs lorsqu'ils parlent d'un échec ?
Il y en a beaucoup. Je vous en donne 5, ce sont les principales. Premièrement, c'est la générosité de notre protection sociale et de notre système de santé unique au monde. Deuxièmement, c'est ce que mes interlocuteurs soulignent avec le plus d'amertume, 96% des personnes déboutées de leur demande d'asile, après examen de leur dossier, ne quittent pas le territoire. Ils formulent souvent un recours et restent en France. Ça, c'est pour les demandeurs d'asile. S'agissant des obligations de quitter le territoire français, ce sont des clandestins ou des personnes en fin de droit. Là, c'est encore 85% des expulsions qui ne sont pas exécutées. Je vous donne un ratio, 120 000 personnes concernées en 2019, moins de 19 000 expulsions effectives. Troisième raison, toujours selon nos sources, Algérie, Maroc et Tunisie, les trois premières nationalités en nombre de demandes de titres de séjour, eh bien ces pays refusent de reconnaître environ la moitié des ressortissants que la France cherche à expulser.
Et je précise, hein, Louis, les arguments que vous donnez là, ce sont ceux de conseillers politiques proches d'Emmanuel Macron. Il faut d'ailleurs rappeler à nos auditeurs que sur l'attrait, par exemple, de notre système de santé dont vous parliez, on est sur une thèse très discutée par les experts, les économistes, hein, qui maîtrisent ces sujets. Alors, autre raison qui expliquerait sacrer, Louis, l'échec de la politique française, hein, selon les proches du président, le poids des étudiants étrangers.
Oui, car ils viennent, mais ne repartent pas toujours. Ils représentent 30% des 276 000 titres de séjour délivrés en 2019. Le problème, c'est que souvent, ils ne respectent pas leur engagement de départ, c'est-à-dire le retour dans leur pays d'origine à la fin de leurs études. Et on se retrouve parfois dans la situation où certains pays en développement réclament auprès des autorités françaises le retour de ces étudiants pour servir leur pays.
Finalement, l'immigration économique est assez marginale.
Absolument. Elle pèse moins de 10% du total. C'est le cas du terroriste de Rambouillet, un clandestin qui a obtenu un titre de séjour après avoir signé un contrat de travail. Et la dernière raison invoquée par ses conseillers de l'exécutif, c'est la porosité de nos frontières. C'est pour ça que les effectifs de police dédiés à leur surveillance vont augmenter. Et puis, il y a une échéance importante. La France présidera l'Union européenne dès le début de l'année 2022. Et Emmanuel Macron entend bien profiter de cette opportunité pour réformer l'espace Schengen.
La politique migratoire d'Emmanuel Macron, question, analyse, décryptage signé Louis Dragnel.
PSG Manchester City, c'est demain, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, un choc footballistique mais aussi une bataille d'influence.
Guerre d'influence entre le Qatar, propriétaire du PSG, et les Émirats Arabes Unis, propriétaires de Manchester City, deux États voisins riches de pétrole et de gaz, grands rivaux qui entretiennent des relations tendues. Pour eux, le foot, c'est un peu la continuation de la guerre par d'autres moyens. Cyril de la Morinerie.
Oui, d'un côté le Qatar, organisateur de la prochaine Coupe du Monde, qui a investi plus d'un milliard d'euros dans le club parisien depuis sa reprise en 2011. De l'autre, les Émirats Arabes Unis qui ont fait prospérer Manchester City en dépensant 2 milliards d'euros depuis 2008. Le propriétaire, le Cheikh Mansour, détient désormais via sa société City Football Group une dizaine de clubs dans le monde, dont 3 en France. Si ces deux micro-États ne se font pas la guerre, ils s'affrontent notamment sur les terrains de football, confirme Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, le centre de recherche français dédié aux relations internationales.
On est dans le prestige, on est dans le soft power, on est dans l'image. Et la compétition entre les deux rivaux du Golfe est toujours aussi vive et il sera extrêmement important pour chacun de gagner pour bien marquer son territoire.
L'éphémère Super League est un autre exemple de cette guerre d'influence. Manchester City, qui s'était lié à 11 autres clubs pour créer un tournoi privé, s'était opposé au PSG. Un bras de fer emporté par le président parisien Nasser Al-Khelaifi qui espère demain soir un autre succès sur son rival.
Cyril de la Morinerie qui sera au stade pour Europe 1, match en intégralité demain soir.
Merci Simon Rubin, Cyril de la Morinerie, Vénard qui sera au stade.
Oh. Il va travailler surtout, évidemment.
Oui, Ligue des Champions cette semaine, merci Simon Rubin. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h14 dans un instant, Sonia Mavro, question d'invité, le philosophe Michel Onfray. À tout de suite.